21h passées de quelques secondes sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous. Voici Wagon Livre, 305e numéro ce soir, au cours duquel nous allons diffuser la conférence qu'a proposée Jean Lacoste le 17 juin dernier à la salle gothique de Vézelay. Une conférence organisée par l'association Romain Rolland et la Maison Jules Roy. Une conférence qui avait pour thème Romain Rolland et l'Amérique, une tradition libertaire. Avant de donner la parole à Jean Lacoste, je voudrais d'abord rappeler quelques grandes dates concernant Romain Rolland. Romain Rolland est né à Clamecy en 1866, fils de paysan et de notaire, professeur d'histoire à Henri IV et Louis le Grand. Romain Rolland se fait connaître en 1904-1905 avec un roman en 4 volumes, Jean-Christophe, dont le succès lui permet de quitter l'enseignement et de se consacrer totalement à l'écriture. Amateur d'art et de musique, amoureux de l'Italie, il est ami avec Richard Strauss, Paul Claudel, Sigmund Freud et Stefan Zweig. En août 1914, la déclaration de guerre le surprend en Suisse. Il n'est pas mobilisable, Romain Rolland a déjà 48 ans, mais il est très hostile à cette guerre mondiale qui signifie à ses yeux le déclin et le suicide de l'Europe. Il s'installe au bord du lac Léman pour continuer d'écrire depuis la Suisse en restant au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, ce sera justement le titre d'un pamphlet qu'il fait paraître dans le journal de Genève et qui contribuera à ce qu'on lui décerne le prix Nobel de littérature en 1915. Cette distinction sera très peu prisée en France où on le considère selon les cas comme un humaniste, un pacifiste, un communiste, un planqué ou un traître à la patrie. Il ne rentre en France qu'en 1937, après la victoire du Front populaire, pour s'installer à Vézelay, aux portes du Morvan. Il se passionne pour les grandes figures pacifistes comme Léon Tolstoï, Rabindranath Tagore ou Gandhi. Il y traverse l'occupation dans la plus grande discrétion à rédiger ses mémoires. Il meurt le 30 décembre 1944 dans sa belle maison de Vézelay, qui héberge aujourd'hui le musée Zervos, rue Saint-Étienne. Sans plus tarder, voici donc la conférence de Jean Lacoste, enregistrée pour vous, auditrices et auditeurs de Wagon Livre, le samedi 17 juin dernier. C'était à la salle gothique de Vézelay, un événement organisé par l'Association des Amis de Romain Rolland et par la Maison Jules Roy.
On se plairait à imaginer Romain Rolland sur le pont du Normandie, enveloppé dans sa houppelande, ou jouant aux échecs avec un maître d'Europe centrale comme dans la nouvelle de Stefan Zweig, et puis apercevant au petit matin les gratte-ciels, les skyscrapers de New York dans la brume. On aurait pu attendre quelque chose comme ceci, ce texte-ci que je vous lis en introduction. Pour une surprise, c'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire, puis, tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, on s'est mis à bien rigoler en voyant ça droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et des fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas, elles sont couchées, les villes, au bord de la mer ou sur les fleuves. Elles s'allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas, non, elle se tenait bien raide, là, pas baisante du tout, raide à faire peur. Vous avez peut-être reconnu l'arrivée de Céline dans le voyage au bout de la nuit. Eh bien, cette surprise de New York, entre guillemets, cette révélation de l'Amérique du Nord comme quelque chose de radicalement d'autre, Romain Rolland ne l'eut pas. Il n'a pas vécu ce choc de modernité, raide à faire peur, un peu inhumaine, dont on voit la traduction, par exemple, dans les pages de Le Corbusier, son ami Le Corbusier, sur New York, dans son livre de 37, « Quand les cathédrales étaient blanches ». Hélas, contrairement à d'autres, comme Georges Duhamel, comme le docteur Durtin, ou bien son ami Claudel, qui a été diplomate aux États-Unis de 27 à 33, et qui a écrit de jolies choses d'ailleurs sur l'élasticité américaine, Rolland n'a pas traversé l'Atlantique. Il n'a pas écrit sur les États-Unis. Que dire d'autre ? Voilà une conférence qui s'annonce plus brève que prévu. Même au moment du plus grand péril, c'est-à-dire à la veille de la Seconde Guerre mondiale en 1940, 10 jours à peine avant que les Allemands n'arrivent à Vézelay, Romain Rolland refuse de chercher refuge aux États-Unis, comme le firent les surréalistes Claude Lévi-Strauss. Il écrit à une Américaine, Hélène Farrer, une universitaire préparant une thèse sur le théâtre de Romain Rolland, le 3 juin 1940. « Vous m'engagez très aimablement à venir m'établir aux États-Unis, mais je suis âgé et assez malade. J'aurais peine à le faire dans les conditions présentes, de faire un tel voyage et une fois là-bas, de supporter les fatigues des conférences publiques qu'on attendrait de moi. J'ai 74 ans et ma mauvaise santé m'oblige à restreindre mon activité au travail de bureau et à la création littéraire. » Bref, il a préféré l'angoisse des jours de Vézelay sous l'occupation. Certes, il n'aime pas la plutocratie yankee, comme il dit parfois, et il se sent trop âgé, trop malade, trop habitué à la vieille Europe, à ses mœurs et à son mode de vie. Mais surtout, c'est une thèse que j'ai parfois développée, il est habité par un tropisme, une orientation naturelle vers l'Orient. Et ce tropisme oriental chez Romain Rolland se rattache naturellement à cet ex oriente lux, ce principe selon lequel la lumière vient de l'Orient, qui était propre à Ernest Renan, à Michelet, et plus lointain encore à Gérard de Nerval. Pour Romain Rolland, la Grande Grèce d'Empédocle, la Suisse, mais elle-même si accueillante, l'Allemagne, la Russie, l'Inde avec sa mystique et l'Himalaya, qui apparaît dans L'âme enchantée, mais aussi la Chine, le Japon, où il a des amis. Chaque fois, c'est une étape d'un voyage vers l'Est, en Orient, qui est en fait une rupture progressive avec l'Occident. Et la Europe, élargis-toi ou meurs, s'exclame-t-il en janvier 1931. Toujours plus à l'Est, vers l'Orient, il tourne le dos, en fait, à l'Occident. Mais il y a malgré tout une présence de l'Amérique dans l'œuvre de Romain Rolland, une Amérique, il est vrai, à plusieurs visages. Finalement, cette conférence sera peut-être plus longue que prévu. Ce sera l'occasion d'en offrir un autre visage de l'Amérique, ce qui est peut-être pas dépourvu d'importance dans les conditions actuelles, dans les circonstances actuelles et relativement inquiétantes dans lesquelles se trouve précisément cette Amérique. Il y a là incontestablement, très modestement, un véritable enjeu, renouer, comme je vais tenter de le faire, avec une tradition américaine, sinon de gauche au sens européen du terme, du moins progressiste et du moins éclairée, avec toutes sortes de nuances par rapport au marxisme et à l'Union soviétique, mais en tout cas, comme disent les Américains, libérale, liberal, n'est-ce pas ? C'est-à-dire marquée assez largement par une philosophie pragmatiste, un mélange assez original, typiquement américain, en fait, d'individualisme et de solidarité, qu'on associe à des noms comme William James et John Dewey. Une tradition qui, aujourd'hui, peine à se manifester, après tout ce que l'on sait, c'est-à-dire les phases d'exaltation patriotique de la guerre froide, du macartisme, des affrontements autour de la question noire, du Vietnam, des années Reagan, du Tea Party, sans parler du spectacle passablement inquiétant dont nous sommes aujourd'hui les spectateurs impuissants et effarés. Mais il y a aussi une Amérique toujours présente, vivante, active, et je suis redevable sur ce point à l'article d'Antoinette Blum dans une œuvre de paix que nous avions publiée à partir du colloque de 2008 et au livre de notre ami californien David Fisher, Romain Rolland and the Politics of Intellectual Engagement. En fait, entre Romain Rolland et l'Amérique, il y a eu des médiatrices, que j'appellerais des médiatrices. Et d'abord, un épisode un petit peu particulier, cette jeune actrice américaine, Elida von Bruck de Kay, que Romain Rolland surnomme Tali, la muse de la comédie, et avec laquelle, dit le professeur du Châtelet, qui en a examiné les documents, Romain Rolland file le parfait amour à la veille de la guerre de 14. C'est en fait une histoire assez triste et pour tout dire tragique et qui a eu son influence sur le grand roman féministe de Romain Rolland, L'âme enchantée. En janvier 1914, en effet, il confie à Alphonse de Chateaubriand qu'il a rencontré, je cite, une petite actrice américaine. Elle est charmante, avec un petit grain de folie. De cette folie, je cite toujours, de cette folie anglo-saxonne qui converse tranquillement avec Dieu et tranquillement vous traduit en anglais ce qu'ils ont dit ensemble. Vous ne vous figurez pas le piquant et le contraste entre cette assurance imperturbable de la foi. Oui, la jeune fille était adepte de ce qu'on appelle la Christian Science, n'est-ce pas ? La science chrétienne. Et le jeune visage, le parlier zézayant, la vie et l'esprit libre, et surtout la carrière de cette petite Thalie. C'est comique et charmant, ajoute-t-il. Janvier 1914. Il ne se défend pas contre le charme de ces gentilles âmes anglo-saxonnes. Elle est exquise et ses dons d'intelligence sont charmants. Il adopte même un ton un peu protecteur, j'ose pas dire libertin, mais enfin. Mais en fait, en avril, il révèle qu'il vit une passion partagée avec la jeune actrice qui le fait passer des jours dans un rêve perpétuel. Bien entendu, la déclaration de guerre en août 14, brise ce rêve anglo-saxon de Romain Rolland et rend les relations à tous égards compliquées. Même si Rolland veut croire, comme dit-il le système de Mademoiselle de Quai, que la foi est une grande force. Mais cette foi, elle n'arrive pas à surmonter les obstacles. Et Thalie, la belle et charmante Thalie, rentre en Amérique en janvier 1915 et toute idée de remariage rend compte l'hostilité de la mère de Romain Rolland, qui avait déjà mal vécu l'union avec Clotilde Béal et le divorce surtout. Après quelques réunions, Elena, sans résultat, Elena, la jeune américaine, se rend en Italie et Romain Rolland apprend en juillet 19 qu'elle a donné naissance à une petite fille conçue lors d'une brève liaison en Italie et qui est morte en fait par la négligence d'une souris, d'une nourrice, en mai dernier. Et Rolland, très affecté, se sent à la fois trahi et irresponsable. Et quand je disais relation tragique, c'est que Elena retourne aux États-Unis en août, mais en septembre 1920, elle est internée dans une clinique psychiatrique à la demande de la famille. Hystérie, disent les médecins, vite convertie au freudisme. Et Romain Rolland écrit au père pour plaider la cause de la jeune femme en janvier 21, qui ne sortira de cette clinique qu'en novembre. Autre médiatrice, si l'on veut, un peu marginale, mais réelle, la poésie, et en particulier la poésie de Walt Whitman, le grand poète américain, de la démocratie, des grands espaces, avec son recueil en vers libres, les feuilles d'herbe, dont la première édition date de 1855 et qui est saluée dès l'été par le philosophe Emerson, le grand philosophe de Yale, Emerson, dans une lettre extrêmement célèbre. Si Romain Rolland connaît cette poésie, c'est la poésie du puissant Whitman, ou encore, comme il dit, le génial sauvage, c'est sans doute parce que c'est grâce à celui qui en fut le traducteur en France, Maurice Léon Bazalgette, une âme d'élite, dit Romain Rolland, membre important de ce mouvement qu'on appelle l'abbaye de Créteil, une communauté d'artistes fondée par Georges Duhamel et Charles Vildrac avant la guerre. Par la suite, d'ailleurs, Bazalgette sera dans les années 20 secrétaire de rédaction de la revue Europe. Cela veut dire qu'il est très proche de Romain Rolland et que c'est par son intermédiaire, par son entremise, que Romain Rolland a pris connaissance de la poésie de Walt Whitman, que Bazalgette a traduit intégralement, enfin, qui a traduit d'abord en 1909. C'est une personnalité, semble-t-il, très fraternelle et très attachante, à laquelle Stefan Zweig a consacré dans Le Monde d'hier une page tout à fait splendide, car il était un ami assez proche de Bazalgette. Et la disparition en 1929, je crois, a beaucoup affecté Romain Rolland. Et c'est donc grâce à lui, semble-t-il, qu'il connaît ce grand poète américain, et probablement peu nombreux sont les écrivains de l'époque, vers les années 1900, à avoir connaissance et à avoir mesuré l'importance de l'œuvre poétique de Walt Whitman. Comme il dit dans une adresse de 1916 aux écrivains d'Amérique, pour les féliciter de la création d'une nouvelle revue à New York, sur laquelle je reviendrai un peu plus loin, The Seven Arts, les sept arts, une jeune revue où l'âme américaine, écrit Romain Rolland, prend conscience de sa personnalité, et une lettre ouverte qui se termine par l'évocation tout à fait révélatrice de Whitman et de sa voix océanique de grand précurseur. C'est tout typiquement du roman Roland. On retrouve là cette obsession de l'océan. Et il ajoute « Whitman qui est votre Homère », signalant ainsi qu'il a compris ce que la poésie de Whitman pouvait représenter d'éléments épiques. C'est le grand poète, dit-il, le grand poète, le grand poème évangile, le grand poème évangile des camarades de la démocratie et de la fraternité. Lisons quelques lignes quand même de cette adresse aux écrivains d'Amérique. Il leur dit « Vous avez de la chance, une jeune vie ruisselante, d'immenses terres libres à découvrir. D'immenses terres libres à découvrir. Vous êtes au début de votre journée. Point de fatigue de la veille, point de passé qui vous gêne. Derrière vous, seulement la voie océanique d'un grand précurseur, je souligne aussi le terme de précurseur, c'est typiquement rolandien, dont l'œuvre est comme le pressentiment homérique de la vôtre à venir, votre maître. » Romain Rolland exprime ainsi vis-à-vis des États-Unis une forme d'attente, d'espérance, qui n'a pas été totalement comblée par l'histoire, pour dire les choses. Romain Rolland se fait en fait l'écho d'une aspiration utopique incarnée par les États-Unis, mais au début du XIXe siècle, et que l'on trouve par exemple chez Goethe dans les années de voyage de Wilhelm Meister. Mais une aspiration, une espérance qui fait peut-être, soyons lucides et objectifs, qui fait peut-être bon marché du passé déjà lourd de l'Amérique. Les Indiens, les Noirs, l'esclavage, le racisme dont ils ne sont pas sortis. Romain Rolland souscrit à un mirage avec une certaine innocence qui a sa grandeur. Mais il faut voir aussi que Whitman est une référence pacifiste parce qu'il a publié un ouvrage qui s'appelle « Le penseur de plaies » qui reproduit les propos des blessés et des mourants lors de la guerre de sécession pendant laquelle Whitman était infirmier. Donc deux médiatrices, comme vous le voyez, la petite actrice américaine et la grande poésie de Whitman.
À l'instant, c'était Jean Lacoste pour cette première partie de la conférence qu'il a proposée, Salle Gothique à Vézelay, le 17 juin dernier, conférence qui avait pour thème Romain Rolland et l'Amérique, une tradition libertaire. On marque une première pause musicale à bord de Wagon Livre sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Mais moi je m'en fous, je rejoins mon décor. sur le trottoir, un soir de pluie.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
La suite de la conférence de Jean Lacoste. Jean Lacoste, germaniste et philosophe, c'est lui qui a édité le journal de Vézelay de Romain Rolland. Il s'agit ce soir, dans votre émission littéraire sur Radion, d'une conférence que nous avons enregistrée pour vous le 17 juin dernier, salle gothique à Vézelay. Une conférence qui avait pour thème « Romain Rolland et l'Amérique, une tradition libertaire ». Jean Lacoste évoque cette fois-ci l'attitude des intellectuels français, mais plus précisément l'attitude de l'intellectuel Romain Rolland face à la guerre de 14. Et puis, il nous parle aussi du mouvement pacifiste aux États-Unis.
Au commencement, la guerre de 14 ne suscite pas d'un grand intérêt chez les intellectuels américains qui voient dans ce conflit entre les nations européennes précisément ce que leurs ancêtres ont voulu fuir, c'est-à-dire le nationalisme. Et le président Wilson, élu en 1912, est d'abord partisan d'une position de neutralité. Mais à partir de 1915, un mouvement se fait jour en faveur d'une intervention militaire aux côtés des Alliés, notamment sous l'impulsion de Wilson, réélu sur ce thème à l'automne 1916. Et donc, la croisade pour le droit va commencer à se manifester, tout en servant un peu de paravent à la défense sans état d'âme des intérêts du monde des affaires. L'entrée en guerre des États-Unis en avril 17 change la donne et un large mouvement de patriotisme va traverser le pays. Seule une petite minorité d'intellectuels très sévèrement réprimés va se déclarer contre la guerre. La plupart des intellectuels, les écrivains comme John Dewey ou l'écrivain Upton Sinclair sont en faveur de l'intervention, comme l'était par exemple en France Bergson. Et Rolland, son « Au-dessus de la mêlée » est traduit en 1916 et chacun salue son courage. Il entre notamment en relation avec un écrivain et un poète pacifiste, et David Fisher dit « bohémien », un bohème si l'on veut, Max Eastman, le premier grand nom qu'on rencontre dans les relations entre Romain Rolland et l'Amérique, qui est rédacteur en chef d'une revue confidentielle mais importante qui s'appelle « Les Masses »,« The Masses », qui défend une conception très engagée de l'art au nom de la politique et du social. Et Romain Rolland salue dans un texte qui est publié en septembre 17 dans la revue Demain, ce qu'il appelle les voix libres d'Amérique qui se font entendre grâce à cette intransigeante revue. Avec un courage indéniable, Max Easton, notamment avec l'écrivain et journaliste John Reed, dont le nom est bien connu à cause de son reportage sur la révolution de 17, les 10 jours qui ébranlèrent le monde, qui vont être republiés prochainement. Max Easton défend donc une position qui s'oppose à la fois au repli de l'intellectuel dans sa tour d'ivoire, mais qui ne cède pas non plus à l'emballement patriotique. Il faut savoir que la revue de Max Eastman, The Masses, a été très rapidement interdite et censurée, et que les collaborateurs ont été condamnés à de lourdes peines de prison, plusieurs années. Cela ne dissuade pas Max Eastman de lancer en mars une autre revue, Le Liberator. Troisième point, chapitre, si l'on veut, court chapitre. Gagner la paix, avec un point d'interrogation. On va constater, même si Rolland salue les initiatives américaines, on va constater à la fois des convergences, mais aussi des divergences qui sont, je crois, très éclairantes sur notre relation avec les États-Unis et la manière dont la gauche peut se définir par rapport à ce grand pays. Première divergence très frappante, c'est le jugement porté sur l'action du président Wilson, élu pour deux mandats. Et jugement porté aussi sur son œuvre, c'est-à-dire le traité de Versailles de juin 19. Au début, Rolland fait d'abord crédit au président américain, qui avait exprimé les conditions d'une paix durable, les 14 points, Et Roland écrit une lettre ouverte au président Wilson, publiée dans le journal Le Populaire, en 18 novembre 1918, dans laquelle il pose la question qui s'impose dans les ruines de la guerre, « Comment une Europe dégénérée, je cite, n'est-ce pas, épuisée par la guerre, peut-elle réconcilier les peuples ? Comment, dit-il, rompre les fers de l'antique fatalité qui rive ces peuples aux guerres nationales ?» Bonne question. Et seul à ses yeux à ce moment-là, c'est-à-dire en novembre 18, seul le président Wilson, héritier, dit-il, de Washington et de Lincoln, a, je cite encore, « l'autorité morale universelle pour imposer un ordre international ». Et Romain Rolland lance un appel en faveur de ce qu'il appelle un congrès de l'humanité, une sorte de préfiguration des Nations Unies ou de la Société des Nations. Mais il entreprend dès décembre 1918 de justifier une position qui apparaît contestable à certains, et il ajoute qu'il n'est pas wilsonien, car à ses yeux, le président américain travaille à réaliser une conception bourgeoise de la République. Mais il admet que ce grand bourgeois qu'est Wilson incarne le plus pur, le plus désintéressé, le plus humain de la conscience de classe. Très bien. Mais il va déchanter assez rapidement à mesure que les négociations de Versailles vont conduire à une véritable abdication morale. Ruine du grand idéalisme bourgeois, dit-il. En effet, autant l'action de Wilson avait suscité une grande espérance, autant la déception sera considérable lorsqu'il cède devant les prétentions de Clémenceau et celles de Lloyd George, en refusant ou en renonçant à imposer un ordre international. Et cette trahison, Romain Rolland commence par l'accuser, en disant que Wilson a trahi les immenses espoirs des peuples en pactisant avec les renards et les loups, c'est-à-dire Clémenceau et les autres. Cette déception, nombreux sont ceux qui l'ont partagée, et je signale un texte, disons très contestable, d'ailleurs posthume de 1967, mais intéressant, de Freud et de l'ambassadeur William Bullitt, qui était un familier de la Maison Blanche et qui était un diplomate, et qui affirmeront dans cet essai sur le président Wilson, une tentative de psychanalyse un peu à la louche, si je peux dire, que pendant deux mandats, les États-Unis ont été gouvernés par un malade mental, un menteur, un bigot, qui se croyait en communication avec Dieu. Bon, c'est un essai qui est un peu négligé, mais qui peut avoir son intérêt. Or, pour Max Eastman, le président Wilson a le rare don de coopérer avec l'évolution. Et dans un esprit qui relève vraiment du pragmatisme, il lui fait l'éloge d'avoir introduit, je traduis de quelques termes anglais, d'avoir introduit dans l'art de gouverner ce que Bergson et William James et John Dewey, c'est Eastman qui parle, avaient introduit dans la philosophie. Le sens de la réalité du temps et le caractère créatif du changement. Donc vous avez d'un côté la réaffirmation des principes les plus purs, et de l'autre, du côté américain, l'idée que les principes sont là pour s'adapter à l'évolution des choses. Deuxième divergence, qui est la conséquence de la première, c'est que lorsque Romain Rolland lance avec Zweig en juin 1919 son célèbre appel sur la déclaration d'indépendance de l'esprit, dans laquelle il fait appel aux écrivains, aux savants, à tous ceux qui, pour les inviter à faire entendre la voix de la raison et de la paix dans le monde, il s'adresse tout naturellement à Max Eastman pour qu'il relaie auprès du public cette démarche, auprès des intellectuels d'outre-Atlantique. Et Eastman veut bien traduire le texte, dont il salue la hauteur de vue, mais refuse pour sa part de signer. Et il s'en explique dans une lettre à Romain Rolland, publiée dans le numéro 1919 de sa revue, Le Libérateur, dans laquelle il oppose sa vision de la société. Et notamment, il reproche à Romain Rolland d'abord de se vouloir, malentendu habituel, de se vouloir au-dessus de la mêlée et de ne pas se placer directement dans le combat. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Ce qui est plus important, c'est que Max Eastman conteste qu'il y ait une caste ou une classe ou un groupe d'intellectuels aux États-Unis comme en Europe. Et il conteste l'idée même d'intellectuel en disant que il cherche par là à faire que ceux qui prennent position en étant des intellectuels font preuve d'arrogance parce qu'ils sortent de leur domaine de compétences et qu'ils se disent intellectuels sans avoir, je cite, le contact humble avec la réalité. Humble contact with reality. Et il reconnaît que c'est un trait américain que le ridicule et le mépris qui s'attachent d'une certaine manière à la notion de culture élevée, etc. Mais et il admet aussi que c'est une particularité grossière, crude, de la civilisation américaine. Mais en même temps, il voit là la manière de montrer la faille ou le défaut de la position européenne. Les intellectuels se meuvent, dit-il, dans un monde d'idéologie, de croyances, de pensées, d'idéaux, alors que l'histoire est animée par les intérêts matériels. Et ce n'est pas du tout l'intellectualité, la pensée qui mène les batailles, mais les classes sociales. Les intellectuels, dit-il, avec un peu de polémique, n'ont toujours fait qu'obscurcir le débat en apôtres du compromis entre les classes et en apologistes des puissants. Et Max Eastman se console en disant qu'un mouvement comme Clarté, j'évoque pas cette querelle entre Romain Rolland et le Clarté de Barbus, mais l'argument de Max Eastman vaut aussi pour cela, parce qu'il a adressé à Clarté les mêmes reproches. Il dit de toute façon, un mouvement d'intellectuels comme Clarté, comme ce que pouvait promouvoir Romain Rolland, est de toute façon impossible parce que cela associe d'un côté des révolutionnaires prolétariens et des bourgeois libéraux et qu'une pareille organisation contradictoire dans sa définition même est vouée à se scinder, soit à admettre dans un soupir son impuissance. Et il n'est pas exclu que Romain Rolland ait été frappé par ce raisonnement quand, dans les années 30, il fera plutôt le pari de la réelle politique et de l'engagement auprès de l'Union soviétique en renonçant finalement à faire de l'intellectuel une voix qui se porte par sa seule position.
Romain Rolland, est l'Amérique une tradition libertaire? C'est le thème de la conférence de Jean Lacoste que nous diffusons ce soir dans Wagon Livre, à bord de votre émission littéraire sur Radion. On marque, si vous le voulez bien, un nouvel intermède musical. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour ce dernier numéro de la saison, car ensuite, nous allons, tout comme vous, prendre des vacances.
Ça ne tient pas debout sous mes pieds. claqué pieds et clié. Ces enfants bizarres crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le grifoir, et une creepy song en étendard qui fait
je fais tout mon micro au mercure en chrome contre les pop-up qui me sur le trône.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Romain Rolland et l'Amérique, une tradition libertaire. Tel était le thème de la conférence que proposait Jean Lacoste le 17 juin dernier, salle gothique à Vézelay, une conférence que nous avons enregistrée et que nous diffusons ce soir dans son intégralité à bord de votre émission littéraire. Jean Lacoste, germaniste et philosophe, revient sur une affaire mondialement connue qui a bouleversé l'opinion publique, à savoir l'affaire Sacco et Vanzetti.
Ici, quatrième point, si j'osais, je chanterais quelques mots de la fameuse ballade de John Baez, Here's to you, Nicolas and Bart, que vous connaissez sans doute, mais je ne m'y risque pas, bien sûr. En effet, chacun sait qu'il s'agit de l'affaire Sacco et Vanzetti, qui va durablement atteindre la réputation et l'image des États-Unis. Je rappelle, pour ceux qui auraient peut-être oublié, que Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti sont deux ouvriers d'origine italienne, militants anarchistes, arrêtés en 1920 pour le meurtre de deux personnes dans une usine et condamnés à mort par la cour du Massachusetts en 1921, exécutés 6 ans plus tard, en 1927, malgré une campagne mondiale monstre considérable en leur faveur. Quand l'exécution est programmée, quand il n'y a pas d'autre recours qu'une demande de grâce, Rolland envoie le 20 août un télégramme au gouverneur Fuller à Boston. Je cite, « Un ami des États-Unis, je souligne quand même, un ami des États-Unis, vous supplie gracier Sacco Vanzetti, même si coupable, l'humanité l'exigerait. » On économise les mots, mais l'idée est là, est très claire. Et malgré d'innombrables appels venus du monde entier, Sacco et Vanzetti passent sur la chaise électrique le 23 août. Rolland écrit « Toutes les protestations et les supplications du monde entier n'ont fait que durcir l'implacable orgueil et l'inhumanité des gouvernants yankees. Cet assassinat judiciaire, ajoute-t-il, est un désastre moral pour le pays. » Et il écrit le 24 août, le jour même quasiment, « Ce qui me paraît le plus terrible dans la tragédie d'hier soir, c'est l'abîme que ce forfait vient de creuser entre les États-Unis et le reste des peuples du monde. » Et la comparaison s'impose naturellement avec l'affaire Dreyfus. Il dit « Les grands juges, lorsqu'ils ont jugé, laisseraient crouler le monde plutôt que de reconnaître qu'ils ont pu se tromper. » Cet orgueil monstrueux, plus cruel que la cruauté, implacable et stupide, s'obstine sur son erreur et sur son crime, les mâchoires serrées. Mais le crime de tels hommes n'engage qu'eux, et surtout pas l'Amérique. Il affirme même que cette tragédie et ce meurtre judiciaire, comme il dit, va entraîner le réveil moral des États-Unis d'Amérique. Folle espérance, mais bon. Il affirme même, selon une conception tout à fait tragique de l'histoire et presque religieuse, il faut, hélas, ces cruelles secousses et ces sacrifices sanglants pour chaque pas en avant de notre pauvre genre humain. C'est toujours la crucifixion qui est la loi du progrès. Véritable vision wagnérienne de l'histoire. Il affirme, nous verrons ressurgir la meilleure Amérique, enchaînée par le sortilège de l'anneau meurtrier de l'or dominateur. Mais comment garder le contact avec cette autre Amérique, avec cette meilleure Amérique, celle qui est, elle aussi s'est sentie offensée dans ses sentiments les plus profonds par le meurtre judiciaire des deux ouvriers italiens. Cinquième élément, un Américain à Clamcy. Comme je l'ai dit, Romain Rolland n'a pas effectué le voyage outre-Atlantique. Mais son ami Georges Duhamel y a fait un long périple qui a conduit en 1929 de la Nouvelle-Orléans au Mississippi, à Chicago et à New York. Et il en a tiré un livre assez plaisant, une satire, qui est un classique de l'anti-américanisme de mauvaise foi. Ces scènes de la vie future, publiées au Mercure de France en 1930, ont connu un grand succès. On dit même qu'elles auraient influencé le Tintin en Amérique de Hergé qui paraît en 1932. Il faut dire que rien ne trouve grâce aux yeux du docteur Duhamel. Ni l'obsession de l'hygiène, ni la prohibition absurde, ni la climatisation, ni l'hypocrisie des hôtels et leur pruderie, ni la loi de la jungle de la circulation automobile, ni même le lent et obscur jeu de baseball. Dans un chapitre intitulé « Le royaume de la mort », il consacre des pages terribles et très inspirées aux abattoirs de Chicago, le sanctuaire de l'humanité carnivore. Il consacre aussi d'autres pages, plus sottes, à la musique des nègres, je citais. Quant au cinéma, il le réserve aux ilotes, c'est-à-dire aux esclaves de l'ancienne Sparte. C'est un divertissement d'ilotes, un passe-temps d'illettrés, de créatures misérables, ahuries par leurs besognes et leurs soucis. Je passe un spectacle qui ne demande aucun effort, n'excite aucune espérance, sinon celle ridicule d'être un jour star à Los Angeles. Est-ce là la position de Romain Rolland ? Il note que tout ce qui touche les États-Unis met le pauvre Georges Duhamel dans un tremblement et une fureur exceptionnelle. Il est hors de lui quand il se rappelle les expériences qu'il lui a faites de l'octopus. L'octopus, c'est-à-dire la pieuvre, n'est-ce pas, qui domine tout et qui entre dans tous les recoins de la vie des gens. De la machine formidable de l'État qui absorbe et broie toutes les libertés, bien plus tous les désirs de liberté, toutes les personnalités. Il voit en eux non un jeune peuple, mais un peuple vieux, une Europe plus vieille de 30 ou 50 ans, et qui montre où la nôtre arrivera. Je ne sais pas si les scènes de la vie future sont prophétiques. En tout cas, Duhamel, en juin 1930, envoie à Romain Rolland un exemplaire des scènes de la vie future, avec cette dédicace d'ailleurs à Romain Rolland, prince de la civilisation véritable. Et Romain Rolland, prince de la civilisation véritable, c'est un peu étrange. Et Romain Rolland lui répond, « Vous avez écrit peu de livres d'une aussi joyeuse mauvaise humeur que ces scènes à la Swift. L'indignation vous est un tonique et nous tonifie donc par surcroît. Vive les USA pour nous avoir valu ce régal. » Mais, et ça c'est très significatif, il adresse une discrète critique à ce cher vieux français de Duhamel. La douce France, entre guillemets, la civilisation bourgeoise et populaire de son enfance a été vécue par Rolland, dit-il, comme un purgatoire, en fait, étouffant. Ce fut, dit-il, une lutte de tous les instants, à coups de griffes, pour me hisser, pour respirer, pour me défendre contre l'aspexie. Vienne la vie future, je l'attends de pied ferme. Autrement dit, il a gardé de son enfance un tel sentiment d'oppression et d'étouffement qu'il préfère encore voir venir la vue future vue par Georges Duhamel. Et il défend les États-Unis en le disant « Il me suffit de connaître le chef-d'œuvre humain réalisé par certaines âmes d'Amérique américain pur sang de vieille race anglo-saxonne, pour faire crédit à l'Amérique. Et comme je suis un peu sentimental, je pense qu'il pense ici un peu à sa sœur Tali, perdue du côté de Boston. Encore faut-il des médiateurs de qualité. Dans une bande d'actualité d'août 1938 qui est conservée à l'INA et qui est visible, je l'indique, sur le site de l'association Romain Rolland, on voit Romain Rolland lors de l'inauguration d'un stade à Clamecy qui devait porter à l'époque son nom et qui aujourd'hui est plus connu sous le nom de plage de la Tambourinette. En présence de la municipalité de gauche, de la population réunie en délégation et en confrérie, de Jacques Luclos lui-même, venu de Paris faire un tonitruant discours. Il s'agit évidemment d'une bande d'actualité et de propagande du Parti communiste qui montre quelques images de Clamecy, mais aussi de Romain Rolland dans sa maison de Vézelay, assez longuement, en compagnie d'un Américain, d'un écrivain américain, d'un ami d'outre-Atlantique, corps trapu, moustache soignée, un je ne sais quoi d'Hemingway, un beau sourire, vous l'avez sur l'affiche qui présente cette manifestation. Oui, merci Nathalie. C'est presque de l'audiovisuel, là. Voilà. Voilà, il a une fière allure. Il s'agit de Waldo Franck, l'autre figure de l'Amérique progressiste avec laquelle Romain Rolland a eu des relations intellectuelles après Max Eastman. Quelques mots sur Waldo Franck. Né en 1889 dans une famille juive de l'Upper West Side de New York, c'est un point sur lequel Romain Rolland insiste un peu trop. Il fréquente l'université de Yale, dont il est diplômé en 1911. Journaliste, il réalise des entretiens pour les grands journaux, le Times, le New Post, mais en 1913, il séjourne pendant un an à Paris. Il fréquente assez peu les Américains de Paris de l'époque, par exemple Gertrude Stein, parce que, même s'il apprécie la vie à Paris, il a la conviction que les États-Unis doivent créer leur culture spécifique. C'était le message des philosophes pragmatistes. Et il s'interroge sur le rôle que les artistes, les écrivains, les intellectuels peuvent jouer à cette occasion. Et il admire pour cela le rôle de Romain Rolland. Et la guerre va donner une dimension nouvelle à cette problématique, parce que Franck, avec un poète, James Oppenheim, va fonder en 1916 cette revue dont j'ai déjà parlé, The Seven Arts, une revue culturelle d'inspiration pacifiste, et ce qui a été salué, comme je l'ai dit, par Romain Rolland. Elle a cessé assez rapidement sous le coup de la censure, et l'évolution ultérieure de Waldo Franck mériterait des développements que je ne fais pas. Mais il publie chez Gallimard en 1920 Notre Amérique. Il est proche de la NRF, ce qui irrite un petit peu Romain Rolland. D'où cette pointe et ce thème récurrent, il faut le souligner, c'est que Waldo Franck a l'inconvénient d'être juif. Il est un esthète, pas assez engagé politiquement et socialement. Passons. Mais il n'en reste pas moins qu'avec Basil Jett pour Whitman, avec Max Eastman, avec Waldo Franck, Romain Rolland se sent en communion ou en affinité avec cette meilleure Amérique dont il pressent la persistance, malgré tout ce que l'on peut faire, toute la critique que l'on peut faire de tout ce qui va mal aux États-Unis, depuis le capitalisme financier jusqu'au ce conformisme social qu'il appelle l'octopus, l'hypocrisie yankee, je cite encore, et la toute-puissance du dollar. En fait, aux yeux de Romain Rolland, il y a un paradoxe qui va me conduire à une double hypothèse, à savoir que Rolland a perçu une affinité entre sa pensée si fluide, si mouvante, si bergsonienne, et les grands noms de la philosophie spécifiquement américaine du pragmatisme, comme James. Et deuxième hypothèse et paradoxe, c'est que cette meilleure Amérique qu'il a découvert, il l'a découvert par les penseurs de l'Inde, par l'esprit d'Asie, comme il dit. Autrement dit, à force d'aller par ce tropisme dont j'ai parlé vers l'Est, on finit par se retrouver à l'Ouest. Paradoxe. Romain Rolland découvre l'Amérique, mais en passant par l'Orient. J'en ai trouvé une étonnante confirmation de cette hypothèse dans de façon assez surprenante dans L'action et la mystique de l'Inde de 1929-1930, et notamment dans le volume de 1930 consacré à Vivekananda, qui comporte un chapitre 4 décisif consacré, je cite précisément, au précurseur anglo-saxon de l'esprit d'Asie. Et il cite les trois noms auxquels on s'attend, c'est-à-dire le philosophe de Yale, Emerson, Thoreau et Walt Whitman. C'est la pièce manquante. Romain Rolland établit un lien entre les penseurs de la démocratie américaine et la pensée de l'Inde, propre à Vivekananda, l'évangile universel. Et il renverse la chronologie des précurseurs. L'occasion de ce chapitre est d'ailleurs le premier voyage que fait Vivekananda, le disciple de Ramakrishna, à Chicago en 1893 pour un parlement des religions. Les deux mondes se rencontrent. Et je ne peux que vous conseiller de lire les pages dans lesquelles Romain Rolland décrit les tribulations du jeune et naïf Vivekananda en Amérique, qui sont parmi les meilleures choses que Romain Rolland ait écrites, un mélange de Chaplin et de Tolstoï. Je n'entre pas dans le détail de ce qu'on pourrait rapprocher, simplement quelques mots. Ralph Waldo Emerson, le philosophe pragmatiste, a écrit des hommes représentatifs dans une démarche qui rappelle un peu les vies exemplaires de Romain Rolland. Quant à Thoreau, qui a décrit dans un journal les deux années qu'il a passées dans une sorte de solitude sur les bords d'un étang, le Walden Pond, l'étang de Walden, eh bien, Romain Rolland en parle comme une œuvre qui est la Bible du grand individualisme. Et c'est un des livres, ce Walden, ce journal de l'étang de Walden, et était un des livres préférés de Giono, un classique de l'écologie, ce qui montre que les États-Unis peuvent être sensibles à l'écologie. Et on n'oublie pas, bien entendu, que Thoreau est aussi l'auteur d'un livre en faveur de la désobéissance civile de 1846, qui a influencé Gandhi. Et c'est évidemment la pensée religieuse de Whitman qui est la clé de voûte de cette meilleure Amérique, une pensée qui est totalement américaine, d'une certaine manière, mais qui rejoint mystérieusement la sagesse de l'Inde. Pour Romain Rolland, le jeune Whitman parvient à la silencieuse extase secrète d'une sorte de concentration mystique que Rolland rapproche des, je cite, crises d'union dionysiaque avec la mer chez Beethoven. Donc, je pense que Rolland avait parfaitement conscience des limites de ces infiltrations hindoues dans l'esprit américain, et il ne nie pas ce qu'il peut y avoir d'appauvrissant et d'appauvri et de secondaire dans les emprunts à la méditation indienne et à tous les conseils psychologiques de la Christian Science, etc. De même qu'il est sensible à ce qu'il peut y avoir, comme Duhamel, de morbide dans le rythme frénétique de la civilisation américaine. Mais grâce aux travaux de son ami Bazalgette, Rolland a pu mettre ainsi en évidence les affinités entre la poésie purement américaine de Walt Whitman et la pensée indienne, aussi surprenant que cela puisse apparaître. Il s'agit d'une poésie de l'identité, de la perception immédiate et extatique de l'unité du monde et du moi, un chant cosmique qui célèbre à la fois un peuple, une terre et un pays, une pensée réconciliatrice. Bref, si Romain Rolland ne dissimule pas les critiques de fond et comment qu'il adresse à la civilisation américaine, et en particulier dans la dernière période de Wesley, quand la France occupée est soumise aux bombardements alliés, pas toujours discriminés, il nous invite aussi, fort de cette ancienne tradition de la philosophie américaine, d'abord de relire le livre de Thoreau sur l'étang de Walden ou la vie dans les bois, et surtout, malgré tout, en dépit de tout, à ne pas désespérer de l'Amérique. Je vous remercie.
Romain Rolland et l'Amérique, une tradition libertaire, tel était le titre de la conférence que nous vous avons proposée ce soir, une conférence prononcée par le philosophe et germaniste Jean Lacoste le 17 juin dernier à Vézelay, un événement organisé par l'association Romain Rolland que préside Martine Liégeois, que nous saluons et que nous remercions, un événement aussi organisé par la maison Jules Roy. Merci de nous être fidèles, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter à la fois dans Lyon, mais aussi en Bourgogne et aux quatre coins de France grâce au www.radion.fr. Je rappelle aussi que cette émission se retrouvera d'ici quelques heures disponible à l'écoute sur le site d'archives de l'émission www.yannickpetit.fr. Avant de nous séparer, et toujours autour de Romain Rolland, sachez que les éditions Bartilla, en juin dernier, ont réédité La vie de Michel-Ange, avec une présentation de Jean Lacoste. Et Jean Lacoste est celui qui a édité et annoté le journal de Vézelay de Romain Rolland 1938-1944. C'est un journal paru en novembre 2012, mais qui est toujours disponible aux éditions Bartilla, le journal de Vézelay de Romain Rolland. Et puis, au-dessus de la mêlée de Romain Rolland, a été réédité aux éditions Payot en mars 2013 avec une préface de Christophe Prochasson, historien spécialiste de la gauche, des intellectuels et de la Première Guerre mondiale. Je ne peux que vous encourager à vous rendre sur le site internet de l'association des amis de Romain Rolland, www.association-romainrolland.org, et aller notamment dans l'onglet vidéo, où là vous verrez notamment des actualités en noir et blanc datant de août 1938. On voit Romain Rolland à Vézelay, chez lui, et notamment à Clamcy, lors de l'inauguration d'un stade qui porte son nom. Avant de nous séparer, je rappelle, toujours disponible en kiosque, en maison de la presse et en librairie, Pays de Bourgogne, numéro 250-251, Tour du Monde avec les Bourguignons, auteurs de dictionnaire. C'est effectivement un superbe travail qui rassemble 26 Bourguignons extraordinaires qui sont des auteurs de dictionnaires sur la langue indigène du pays qu'ils ont visité. Alors il y en a des très connus comme Jean de Léry, Charles de Foucauld. Alors Charles de Foucauld, lui, est né à Strasbourg en 1858. Il n'est pas bourguignon, mais sachez simplement qu'on le retrouve, Charles de Foucauld, en 1888 à Dijon, où réside sa sœur qui a épousé Raymond de Blic. Charles de Foucauld, vous le savez, qui est mort en décembre 1916. D'ailleurs, le pape Benoît XVI le déclara bienheureux le 13 novembre 2005. Charles de Foucauld qui a travaillé sur la traduction des évangiles en langue tamaap, c'est-à-dire la langue des Touaregs de la Haga. Il a aussi, vous le savez, traduit des poésies Touareg et proposé un dictionnaire berbère français. Mais sachez que le numéro de Pays de Bourgogne nous entraîne au Tibet, en Syrie, au Liban, aux Caraïbes, au Canada, au Sénégal, en Inde, au Sahara, en Algérie, en Russie, au Brésil, en Malaisie, en Thaïlande et Japon. C'est vraiment un travail extrêmement intéressant, très riche, très dense, avec de belles illustrations. Donc ce dernier numéro de Pays de Bourgogne, numéro 250-251, avec des articles signés de Rennes Goldstein et de Michel Potti. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée sur Radion, mais surtout à vous souhaiter un très bel été, que ce soit chez vous, dans le jardin, sous le parasol, au bord de la plage, au bord des lacs, à la montagne, de belles lectures en perspective. Et puis on se donne rendez-vous pour Wagon Livre le 30 août prochain pour la rentrée de votre émission littéraire. Je rappelle que le programme de l'émission se trouve sur le www.yannickpetit.fr. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci de votre écoute, merci du fond du cœur de votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous le 30 août prochain pour la rentrée de Wagon Livre. Merci, au revoir.